Chapitre 14. La visite, l'or, l'élixir de vie. Lorenza ne s'était pas trompée. Une voiture, après être entrée par la barrière Saint-Denis, après avoir suivi dans toute sa longueur le faubourg du même nom, avait tourné entre la porte et l'angle formé par la dernière maison et longeait le boulevard. Cette voiture enfermait, comme l'avait dit la voyante, M. Louis de Rohan, évêque de Strasbourg, que son impatience portait à venir trouver, avant le temps fixé, le sorcier dans son antre. Le cocher, que bon nombre d'aventures galantes du beau prélat aguerrissait contre l'obscurité, les fondrières et les dangers de certaines rues mystérieuses, ne se rebuta pas le moins du monde lorsque, après avoir suivi les boulevards Saint-Denis et Saint-Germain, encore peuplés et éclairés, il lui fallut aborder le boulevard désert et sombre de la Bastille. La voiture s'arrêta au coin de la rue Saint-Claude, sur le boulevard même, et, d'après l'ordre du maître, alla se cacher sous les arbres à 20 pas. Alors M. de Rohan, en habit de ville, se glissa dans la rue et vint frapper 3 fois à la porte de l'hôtel qu'il avait facilement reconnu à la description que lui en avait faite le comte de Phénix. Le pas de Fritz retentit dans la cour, la porte s'ouvrit. « N'est-ce point ici que demeure monsieur le comte de Phénix ?» demanda le prince. « Oui, monseigneur, » répondit Fritz. « Est-il au logis ?»« Oui, monseigneur. »« Bien, annoncez. »« Son éminence le cardinal de Rohan, n'est-ce pas, monseigneur ?» Le prince demeura tout étourdi. Il regarda sur lui, autour de lui, si quelque chose pouvait, dans son costume ou dans son entourage, avoir trahi sa qualité. Il était seul et vêtu en laïc. « Comment savez-vous mon nom ? » demanda-t-il. « Monsieur vient de me dire à l'instant même qu'il attendait son éminence. »« Oui, mais demain, après-demain. »« Non, monseigneur, ce soir. »« Votre maître vient de dire qu'il m'attendait ce soir ?»« Oui, monseigneur. » »« Bien, annoncez-moi alors, » dit le cardinal en mettant un double louis dans la main de Fritz. « Alors, dit Fritz, que votre éminence prenne la peine de me suivre. » Le cardinal fit de la tête un signe annonçant qu'il y consentait. Fritz marcha d'un pas empressé vers la porte de l'antichambre qu'un grand candélabre de bronze doré éclairait de ses 12 bougies. Le cardinal suivait, tout surpris et tout rêveur. « Mon ami, dit-il en s'arrêtant à la porte du salon, il y a sans doute méprise, et dans ce cas je ne voudrais pas déranger le comte. Il est impossible que je sois attendu de lui, puisque il ignore que je devais venir. » « Monseigneur, eh bien son éminence, le cardinal prince de Rohan, évêque de Strasbourg, » demanda Fritz. « Oui, mon ami. » « Alors c'est bien monseigneur que monsieur le comte attend. » Et allumant successivement les bougies de 2 autres candélabres, Fritz s'inclina et sortit. 5 minutes s'écoulèrent pendant lesquelles le cardinal, en proie à une singulière émotion, regarda l'ameublement plein d'élégance de ce salon et les 8 tableaux de maître suspendus à ses lambris. La porte s'ouvrit et le comte de Phénix parut sur le seuil. « Bonsoir, monseigneur, » dit-il simplement. « On m'a dit que vous m'attendiez !» s'écria le cardinal, sans répondre à cette salutation. « Que vous m'attendiez ce soir ? C'est impossible !»« J'en demande pardon à monseigneur, mais je l'attendais, » répondit le comte. « Peut-être doute-t-il de la vérité de mes paroles en voyant l'accueil indigne que je lui fais, mais arrivé à Paris depuis 2 jours, je suis installé à peine, que son éminence veuille donc m'excuser. « Vous m'attendiez, et qui vous a prévenu de ma visite ?» Vous-même, monseigneur. Comment cela? N'avez-vous pas arrêté votre voiture à la barrière Saint-Denis? Oui. N'avez-vous pas appelé votre valet de pied, qui est venu parler à votre éminence à la portière de son carrosse? Oui. Ne lui avez-vous pas dit, rue Saint-Claude au Marais, par le faubourg Saint-Denis et le boulevard? Parole qu'il a répétée à son cocher. Oui, mais vous m'avez donc vu, et vous m'avez donc entendu? Je vous ai vu, monseigneur, je vous ai entendu. Vous étiez donc là? Non, monseigneur, je n'étais pas là. Et où étiez-vous? J'étais ici. Vous m'avez vu, vous m'avez entendu d'ici? Oui, monseigneur. Allons donc. Monseigneur oublie que je suis sorcier. Ah, c'est vrai, j'oubliais. Monsieur, comment faut-il que je vous appelle? Monsieur le baron Balsamo ou monsieur le comte de Phénix? Chez moi, monseigneur, je n'ai pas de nom. Je m'appelle le maître. Oui, c'est le titre hermétique. Ainsi donc, maître, vous m'attendiez? Je vous attendais. Et vous aviez chauffé votre laboratoire? Mon laboratoire est toujours chauffé, monseigneur. Et vous me permettez d'y entrer? J'aurai l'honneur d'y conduire votre éminence. Je vous suivrai, mais à une condition. Laquelle? C'est que vous me promettez de ne pas me mettre personnellement en rapport avec le diable. J'ai grand peur de sa majesté Lucifer. Oh, monseigneur! Oui, d'ordinaire, on prend pour faire le diable de grands coquins de gardes françaises réformées ou des maîtres d'armes à plumer qui, pour jouer au naturel le rôle de Satan, roulent les gens de Chiquenaude et de Nazarde après avoir éteint les chandelles. « Monseigneur, dit Balsamo en souriant, jamais mes diables à moi n'oublient qu'ils ont l'honneur d'avoir affaire à des princes, et ils se souviennent toujours du mot de monsieur de Condé, qui promit à l'un d'eux, s'il ne se tenait pas tranquille, de rosser si bien son fourreau qu'il serait forcé d'en sortir ou de s'y conduire plus décemment. « Bien, dit le cardinal, voilà qui me ravit. Passons au laboratoire. » « Votre éminence veut-elle prendre la peine de me suivre ? Marchons !» Le cardinal de Rohan et Balsamo enfilèrent un petit escalier qui conduisait, parallèlement au grand, dans les salons du premier étage. Là, sous une voûte, Balsamo trouva une porte qu'il ouvrit et un corridor sombre apparut aux yeux du cardinal qui s'y engagea résolument. Balsamo referma la porte. Au bruit que cette porte fit en se refermant, le cardinal regarda derrière lui avec une certaine émotion. « Monseigneur, nous voici arrivés, dit Balsamo. Nous n'avons plus qu'à ouvrir devant nous et à refermer derrière nous cette dernière porte. Seulement ne vous étonnez point du son étrange qu'elle rendra. Elle est de fer. » Le cardinal, que le bruit de la première porte avait fait tressaillir, fut heureux d'avoir été prévenu à temps, car les grincements métalliques des gonds et de la serrure eussent fait vibrer des nerfs moins susceptibles que les siens. Il descendit trois marches et entra. Un grand cabinet, avec des solives nues au plafond, une vaste lampe et son abat-jour, force livres, beaucoup d'instruments de chimie et de physique, tel était l'aspect premier de ce nouveau logis. Au bout de quelques secondes, le cardinal sentit qu'il ne respirait plus que péniblement. « Que veut dire cela ? » demanda-t-il. « On étouffe ici, maître, la sueur me coule. Quel est ce bruit ?»« Voici la cause, monseigneur, comme dit Shakespeare, » fit Balsamo en tirant un grand rideau d'amiante et en découvrant un vaste fourneau de briques, au centre duquel deux trous étincelaient comme les yeux du lion dans les ténèbres. Ce fourneau tenait le centre d'une seconde pièce, d'une grandeur double de la première, et que le prince n'avait pas aperçue, masquée qu'elle était par le rideau d'amiante. « Oh ! » dit le prince en reculant, « ceci est assez effrayant, ce me semble. C'est un fourneau, monseigneur. » « Oui, sans doute, mais vous avez cité Shakespeare, moi je citerai Molière, il y a fourneau et fourneau. Celui-ci a un air tout à fait diabolique et son odeur ne me plaît pas. Que cuit-on là-dedans ? Mais ce que votre éminence m'a demandé, plaît-il ? Sans doute, votre éminence m'a, je crois, fait la grâce d'accepter un échantillon de mon savoir-faire. » Je devais ne le mettre en œuvre que demain soir, puisque votre éminence ne devait venir qu'après-demain, mais votre éminence ayant changé d'avis, j'ai, aussitôt que je l'ai vu en route pour la rue Saint-Claude, allumé le fourneau et fait la miction. Il en résulte que le fourneau bout et que dans 10 minutes, vous aurez votre or. Permettez que j'ouvre le vasistas pour établir un courant d'air. Quoi, c'est creusé, placé sur ce fourneau? Dans 10 minutes, nous donnerons de l'or aussi pur que les sequins de Venise et les florins de Toscane. Voyons si l'on peut voir toutefois. Sans doute, seulement quelques précautions sont indispensables. Lesquelles ? Appliquez sur votre visage ce masque d'amiante aux yeux de verre, sans quoi le feu pourrait bien, tant il est ardent, vous brûler la vue. Peste, prenons-y garde, je tiens à mes yeux, et je ne les donnerai pas pour les 100 000 écus que vous m'avez promis. C'est ce que je pensais, monseigneur, les yeux de votre éminence sont beaux et bons. Le compliment ne déplut aucunement au prince, très jaloux de ses avantages personnels. Ah, fit-il en ajustant le masque, nous disons donc que nous allons voir de l'or. Je l'espère, monseigneur. Pour 100 000 écus? Oui, monseigneur, peut-être y en aura-t-il un peu plus, car j'ai fait la miction abondante. Vous êtes en vérité un généreux sorcier, dit le prince, avec un joyeux battement de cœur. Moins que votre éminence, qui veut bien me le dire. Maintenant, monseigneur, veuillez vous écarter un peu, je vous prie, que j'ouvre la plaque du creuset. Balsamo revêtit une courte chemise d'amiante, saisit d'un bras vigoureux une pince de fer, et leva un couvercle rougi par l'ardeur du feu, lequel laissa à découvert 4 creusets de forme pareille, contenant les uns une mixture rouge comme du vermillon, et les autres une matière blanchissant déjà, mais avec un reste de transparence purpurine. « Et voilà l'or, » dit le prélat à mi-voix, comme s'il eût craint de troubler par une parole trop haute le mystère qui s'accomplissait devant lui. « Oui, monseigneur, ces 4 creusets sont étagés. Les uns ont 12 heures de cuisson, les autres 11. La mixtion, et ceci est un secret que je révèle à un ami de la science, ne se jette dans la matière qu'au moment de l'ébullition. Mais, comme votre éminence peut le voir, voici le premier creuset qui blanchit, il est temps de transvaser la matière arrivée à point. Veuillez vous reculer, monseigneur. » Le prince obéit avec la même ponctualité qu'un soldat à l'ordre de son chef, et Balsamo, quittant la pince de fer déjà chaude par le contact des creusets rouges, apporta du fourneau une sorte d'enclume à roulette sur laquelle étaient enchâssés dans des formes de fer 8 moules cylindriques de même capacité. « Que ceci, cher sorcier ?» demanda le prince. « Ceci, monseigneur, c'est le moule commun et uniforme dans lequel je vais couler vos lingots. »« Ah !» fit le prince, et il redoubla d'attention. Balsamo étendit sur la dalle un lit d'étoupe blanche en guise de rempart. Il se plaça entre l'enclume et le fourneau, ouvrit un grand livre, récita, baguette en main, une incantation, puis saisissant une tenaille gigantesque destinée à enfermer le creuset dans ses bras tordus, « Oh, l'or sera superbe, monseigneur, dit-il, et de première qualité. »« Comment, demanda le prince, vous allez enlever ce pot du feu ?»« Qui pèse 50 livres, oui, monseigneur. Oh, il y a peu de fondeurs, je vous le déclare, qui ont mes muscles et ma dextérité. Ne craignez donc rien. » »« Cependant, si le creuset éclatait... » Ah, cela m'est arrivé une fois, monseigneur, c'était en 1399, je faisais une expérience avec Nicolas Flamel en sa maison de la rue des Écrivains, près la chapelle Saint-Jacques-la-Boucherie. Le pauvre Flamel faillit perdre la vie, et moi, j'y perdis 27 marres d'une substance plus précieuse que l'or. « Que diable me dites-vous là, maître ? La vérité ! « En 1399, vous poursuiviez le grand œuvre ?»« Oui, monseigneur. »« Avec Nicolas Flamel ?»« Avec Nicolas Flamel. Nous trouvâmes le secret ensemble, 50 ou 60 ans auparavant, en travaillant avec Pierre Lebon dans la ville de Pola. Il ne boucha point le creuset assez vite et j'eus l'œil droit perdu pendant 10 ou 12 ans par l'évaporation. »« Pierre Lebon ?» Celui qui composa le fameux ouvrage de la Margarita Preziosa, ouvrage que vous connaissez sans doute. Oui, et qui porte la date de 1330. C'est justement cela, monseigneur. Et vous avez connu Pierre Lebon et Flamel? J'ai été l'élève de l'un et le maître de l'autre. Et tandis que le cardinal, épouvanté, se demandait si ce n'était pas le diable en personne, et non un de ses suppôts qui se trouvait à ses côtés, Balsamo plongea dans la fournaise sa tenaille au long bras. L'étreinte fut sûre et rapide. L'alchimiste engloba le creuset à 4 pouces au-dessus du bord, s'assura, en le soulevant de quelques pouces seulement, qu'il le tenait bien. Puis, un effort vigoureux, il roidit les muscles et enleva l'effrayante marmite de son fourneau ardent. Les mains de la tenaille rougirent aussitôt, puis on vit courir sur l'argile incandescente des sillons blancs comme des éclairs dans une nuée sulfureuse. Puis les bords du creuset se foncèrent au rouge-brun, tandis que le fond conique apparaissait encore rose et argent sur la pénombre du fourneau. Puis enfin, le métal ruisselant sur lequel s'était formée une crème violette frisée de plis d'or siffla par la gouttière du creuset et tomba en jets flamboyants dans le moule noir, à l'orifice duquel apparut, furieuse et écumante, la nappe d'or, insultant par ses frissonnements au vil métal qui la contenait. « Au second !» dit Balsamo, en passant à un second moule, et le second moule fut rempli avec la même force et la même dextérité. La sueur dégouttait du front de l'opérateur, le spectateur se signait dans l'ombre. En effet, c'était un tableau d'une sauvage et majestueuse horreur. Balsamo, éclairé par les fauves reflets de la flamme métallique, ressemblait aux damnés que Michel-Ange et Dante tordent dans le fond de leur chaudière. Puis il y avait l'émotion de l'inconnu. Balsamo ne respira point entre les deux opérations, le temps pressé. « Il y aura un peu de déchets, dit-il, après avoir rempli le second moule. J'ai laissé bouillir la mixture 1/100 de minute de trop. »« 1/100 de minute ? » s'écria le cardinal, ne cherchant plus à cacher sa stupéfaction. « C'est énorme en hermétique, monseigneur, » répliqua naïvement Balsamo, « mais en attendant, éminence, voici 2 creusets vides et 2 moules remplis et 100 livres d'or fin. » Et saisissant, à l'aide de ses puissantes tenailles, le premier moule, il le jeta dans l'eau qui tourbillonna et fuma longtemps. Puis il l'ouvrit et en tira un morceau d'or irréprochable, ayant la forme d'un petit pain de sucre aplati aux 2 pôles. « Nous avons près 1 heure à attendre pour les 2 autres creusets, » dit Balsamo. « En attendant, votre éminence veut-elle s'asseoir ou respirer le frais ?» « Est-ce que c'est de l'or ?» demanda le cardinal, sans répondre à l'interrogation de l'opérateur. Balsamo sourit, le cardinal était bien à lui. « En douteriez-vous, monseigneur ? Écoutez donc, la science s'est trompée tant de fois. « Vous ne dites pas votre pensée tout entière, mon prince, » dit Balsamo. « Vous croyez que je vous trompe et que je vous trompe sciemment ?» « Monseigneur, je serais bien peu de chose à mes propres yeux si j'agissais ainsi, car mes ambitions n'iraient pas au-delà des murs de mon cabinet qui vous verraient sortir tout émerveillé pour aller perdre votre admiration chez le premier batteur d'or venu. Allons, allons, faites-moi plus d'honneur, mon prince, et croyez que si je voulais tromper, ce serait plus adroitement et dans un but plus élevé. Au surplus, votre majesté sait comment on éprouve l'or. Sans doute par la pierre à toucher. » « Monseigneur n'a pas manqué de faire l'expérience lui-même, ne fût-ce que sur les 11 d'Espagne qui sont fort courus au jeu, étant de l'or le plus fin que l'on puisse trouver, mais parmi lesquels il s'en trouve beaucoup de fausses. Cela m'est arrivé, effectivement. Eh bien, monseigneur, voici 1 pierre et 2 acides. Non, non, je suis convaincu. « Monseigneur, faites-moi le plaisir de vous assurer que ces lingots sont non seulement de l'or, mais encore de l'or sans alliage. » Le cardinal paraissait répugné à donner cette preuve d'incrédulité, et cependant il était visible qu'il n'était point convaincu. Balsamo toucha lui-même les lingots et soumit le résultat à l'expérience de son hôte. « 28 carats, dit-il, je vais verser les 2 autres. » 10 minutes après, les 200 livres d'or étaient étalés en 4 lingots sur les toupes échauffées par le contact. « Votre éminence est venue en carrosse, n'est-ce pas ? Du moins, c'est en carrosse que je l'ai vu venir. »« Oui. Monseigneur fera approcher son carrosse de la porte et mon laquais portera des lingots dans le carrosse. »« 100 000 écus !» murmura le cardinal en ôtant son masque comme pour voir par ses propres yeux l'or gisant à ses pieds. Et celui-là, monseigneur, vous pourrez dire d'où il vient, n'est-ce pas, car vous l'avez vu faire. Oh oui, j'en témoignerai. Non pas, non pas, dit vivement Balsamo. On n'aime pas les savants en France. Ne témoignez de rien, monseigneur. Oh, si je faisais des théories au lieu de faire de l'or, je ne dis pas. Alors, que puis-je faire pour vous, dit le prince, en soulevant avec peine un lingot de 50 livres dans ses mains délicates. Balsamo le regarda fixement et, sans aucun respect, se mit à rire. « Qu'y a-t-il donc de risible dans ce que je vous dis ?» demanda le cardinal. « Votre éminence m'offre ses services, je crois. »« Mais sans doute. En vérité, ne serait-il pas plus à propos que je lui offrisse les miens ?» La figure du cardinal s'assombrit. « Vous m'obligez, monsieur, dit-il, et cela, je m'empresse de le reconnaître, mais si cependant la reconnaissance que je vous garde devait être plus lourde que je ne le crois, je n'accepterai point le service. Il y a encore, Dieu merci, dans Paris assez d'usuriers pour que je trouve, moitié sur gage, moitié sur ma signature, 100 000 écus d'ici après-demain, et rien que mon anneau épiscopal vaut 40 000 livres. » Et le prélat tendit sa main blanche comme celle d'une femme à l'annulaire duquel brillait un diamant gros comme une noisette. « Mon prince, dit Balsamo en s'inclinant, il est impossible que vous ayez pu croire un instant à mon intention de vous offenser. » Et puis, comme il se parlait à lui-même, « Il est étrange, continua-t-il, que la vérité fasse cet effet à quiconque s'appelle prince. » « Comment cela ? Eh, sans doute, votre éminence me propose ses services, à moi. Je vous le demande à vous-même, monseigneur, de quelle nature peuvent être les services que votre éminence est à même de me rendre ? Mais mon crédit à la cour, d'abord. Monseigneur, monseigneur, vous savez vous-même que ce crédit est bien ébranlé, et j'aimerais presque autant celui de monsieur de Choiseul, qui n'a plus que 15 jours peut-être à rester ministre. Et tenez, mon prince, en fait de crédit, tenons-nous-en au mien. Voici du bel et bon or, et chaque fois que votre éminence en voudra, elle me le fera dire la veille ou le matin même, et je lui en fournirai à son désir. Et avec de l'or, on a tout, n'est-ce pas, monseigneur ? « Non, pas tout, murmura le cardinal, tombé au rang de protégé, et ne cherchant même plus à reprendre sa position de protection. « Ah, c'est vrai, j'oubliais, dit Balsamo, que monseigneur désire autre chose que de l'or, un bien plus précieux que toutes les richesses du monde. Mais ceci ne regarde plus la science, c'est du ressort de la magie. » « Monseigneur, dites un mot, et l'alchimiste est prêt à faire place au magicien. »« Merci, monsieur, je n'ai plus besoin de rien, je ne désire plus rien, » dit tristement le cardinal. Balsamo s'approcha de lui. « Monseigneur, dit-il, un prince jeune, ardent, beau, riche, et qui s'appelle Rohan, ne peut pas faire une pareille réponse à un magicien. »« Et pourquoi cela ?» Parce que le magicien lit au fond du cœur et sait le contraire. Mais je ne désire rien, je ne veux rien, monsieur, reprit le cardinal, presque épouvanté. J'aurais cru au contraire que les désirs de son éminence étaient tels qu'elle n'osait se les avouer à elle-même, reconnaissant que c'était des désirs de roi. Monseigneur, dit le cardinal en tressaillant, vous faites allusion, je crois, à quelques paroles que vous m'avez dites déjà chez la princesse. Oui, je l'avoue, monseigneur. Monsieur, alors vous vous êtes trompé, et vous vous trompez encore maintenant. Oubliez-vous, monseigneur, que je vois aussi clairement dans votre cœur ce qui s'y passe en ce moment que j'ai vu clairement votre carrosse sortir des Carmélites de Saint-Denis, dépasser la barrière, prendre le boulevard et s'arrêter sous les arbres à 50 pas de ma maison. Alors expliquez-vous, dites-moi quelque chose qui me frappe. Monseigneur, il a toujours fallu au prince de votre maison un amour grand et hasardeux. Vous ne dégénérerez pas, c'est la loi. Je ne sais ce que vous voulez dire, comte, balbutia le prince. Au contraire, vous me comprenez à merveille. J'aurais pu toucher plusieurs des cordes qui vibrent en vous. Mais pourquoi l'inutile? J'ai été droit à celle qu'il faut attaquer. Oh, celle-là vibre profondément, j'en suis sûr. Le cardinal releva la tête et, par un dernier effort de défiance, interrogea le regard si clair et si assuré de Balsamo. Balsamo souriait avec une telle expression de supériorité que le cardinal baissa les yeux. Oh, vous avez raison, monseigneur, vous avez raison, ne me regardez point, car alors je vois trop clairement ce qui se passe dans votre cœur, car votre cœur est comme un miroir qui garderait la forme des objets qu'il a réfléchis. Silence, comte de Phénix, silence, dit le cardinal, subjugué. Oui, vous avez raison, silence, car le moment n'est pas encore venu de laisser voir un pareil amour. Pas encore, vous avez dit. Pas encore. Cet amour a donc un avenir? Et pourquoi pas? Et vous pourriez me dire, vous, si cet amour n'est pas insensé, comme je l'ai cru moi-même, comme je le crois encore, comme je le croirai jusqu'au moment où une preuve du contraire me sera donnée. Vous demandez beaucoup, monseigneur. Je ne puis rien vous dire sans être mis en contact avec la personne qui vous inspire cet amour, ou avec quelque objet venant d'elle. Quel objet faudrait-il pour cela? Une tresse de ses beaux cheveux dorés, si petite qu'elle soit, par exemple. Oh oui, vous êtes un homme profond. Oh oui, vous l'avez dit, vous lisez dans les cœurs comme je lirais, moi, dans un livre. Hélas, c'est ce que me disait votre pauvre arrière-grand-oncle, le chevalier Louis de Rohan, lorsque je lui fis mes adieux sur la plateforme de la Bastille, au pied de l'échafaud sur lequel il monta si courageusement. Il vous a dit cela, que vous étiez un homme profond, et que je lisais dans les cœurs. Oui, car je l'avais prévenu que le chevalier de Préau le trahirait. Il ne voulut pas me croire, et le chevalier de Préau le trahit. Quel singulier rapprochement faites-vous entre mon ancêtre et moi, dit le cardinal en pâlissant malgré lui. C'est uniquement pour vous rappeler qu'il s'agit d'être prudent, monseigneur, en vous procurant des cheveux qu'il faudra couper sous une couronne. Oh, n'importe où il faudra les aller prendre, vous les aurez, monsieur. Bien, maintenant voici votre or, monseigneur. J'espère que vous ne doutez plus que ce soit bien de l'or. Donnez-moi une plume et du papier. Pourquoi faire, monseigneur? Ben, pour vous faire un reçu des 100 000 écus que vous me prêtez si gracieusement. Puis pensez-vous, monseigneur, un reçu à moi, et pourquoi faire? J'emprunte souvent, mon cher comte, dit le cardinal, mais je vous préviens que je ne reçois jamais. Comme il vous plaira, mon prince. Le cardinal prit une plume sur la table et écrivit d'une énorme et illisible écriture un reçu dont l'orthographe ferait peur à la gouvernante d'un sacristain d'aujourd'hui. Est-ce bien cela? Demanda-t-il en le présentant à Balsamo. Parfaitement, répliqua le comte, le mettant dans sa poche sans même jeter les yeux dessus. Vous ne lisez pas, monsieur? J'avais la parole de votre éminence, et la parole des Rohan vaut mieux qu'un gage. Monsieur le comte de Phénix, dit le cardinal avec un demi-salut bien significatif de la part d'un homme de cette qualité, vous êtes un galant homme, et si je ne puis vous faire mon obligé, vous me permettrez d'être heureux de demeurer le vôtre. Balsamo s'inclina à son tour et tira une sonnette au bruit de laquelle Fritz apparut. Le comte lui dit quelques mots en allemand. Fritz se baissa, et comme un enfant qui emporterait 8 oranges, un peu embarrassé, mais nullement courbé ou retardé, il enleva les 8 lingots dans leur enveloppe d'étoupe. Mais c'est un Hercule que ce gaillard-là, dit le cardinal. Il est assez fort, oui, monseigneur, répondit Balsamo, mais il est vrai que depuis qu'il est à mon service, je lui laisse boire chaque matin 3 gouttes d'un élixir composé par mon savant ami le docteur Altotas. Aussi le voilà qui commence à profiter. Dans un an, il portera les 100 mars d'une seule main. Merveilleux, incompréhensible, murmura le cardinal. Oh, je ne pourrais résister au désir de parler de tout cela. Faites, monseigneur, faites, répondit Balsamo en riant, mais n'oubliez pas que parler de tout cela, c'est prendre l'engagement de venir éteindre vous-même la flamme de mon bûcher, si par hasard il prenait envie, au Parlement, de me faire rôtir en place de grève. Et ayant escorté son illustre visiteur jusque sous la porte cochère, il prit congé de lui avec un salut respectueux. « Mais votre valet, je ne le vois pas, » dit le cardinal. « Il est allé porter l'or dans votre voiture, monseigneur. »« Il sait donc où elle est. »« Sous le quatrième arbre, à droite, en tournant le boulevard. »« C'est cela que je lui disais en allemand, monseigneur. » Le cardinal leva les mains au ciel et disparut dans l'ombre. Balsamo attendit que Fritz fût rentré et remonta chez lui en fermant toutes les portes. Balsamo, demeuré seul, vint écouter à la porte de Lorenza. Elle dormait d'un sommeil égal et doux. Il entr'ouvrit alors un guichet fixé en dehors et la contempla quelque temps dans une douce et tendre rêverie. Puis, repoussant le guichet et traversant la chambre que nous avons décrite et qui séparait l'appartement de Lorenza du cabinet de physique, il s'empressa d'aller éteindre ses fourneaux et, ouvrant un immense conduit qui dégagea toute la chaleur par la cheminée et donna passage à l'eau d'un réservoir placé sur la terrasse. Puis, serrant précieusement dans un portefeuille de maroquin noir le reçu du cardinal, « La parole de Rohan est bonne, murmura-t-il, mais pour moi seulement, et là-bas, il est bon que l'on sache à quoi j'emploie l'or des frères. » Ces paroles s'éteignaient sur ses lèvres quand trois coups secs frappés au plafond lui firent lever la tête. « Oh, dit-il, voilà Altotas qui m'appelle. » Puis, comme il donnait de l'air au laboratoire, rangeait toutes choses avec méthode, replaçait la plaque sur les briques, les coups redoublèrent. « Ah, il s'impatiente, c'est bon signe. » Balsamo prit une longue tringle de fer et frappa à son tour. Puis il alla détacher de la muraille un anneau de fer, et au moyen d'un ressort qui se détendit, une trappe se dégagea du plafond et s'abaissa jusqu'au sol du laboratoire. Balsamo se plaça au centre de la machine, qui, au moyen d'un autre ressort, remonta doucement, enlevant son fardeau avec la même facilité que les gloires de l'opéra enlèvent les dieux et les déesses, et l'élève se trouva chez le maître. Cette nouvelle habitation du vieux savant pouvait avoir de 8 à 9 pieds de hauteur sur 16 de diamètre. Elle était éclairée par le haut à la manière des puits et hermétiquement fermée sur les 4 façades. Cette chambre était, comme on le voit, un palais relativement à son habitation dans la voiture. Le vieillard était assis dans son fauteuil roulant au centre d'une table de marbre taillée en fer à cheval et encombrée de tout un monde, ou plutôt de tout un chaos de plantes, de fioles, d'outils, de livres, d'appareils et de papiers chargés de caractères cabalistiques. Il était si préoccupé qu'il ne se dérangea point quand Balsamo apparut. La lumière d'une lampe astrale attachée au point culminant du vitrage tombait sur son crâne nu et luisant. Il ressassait entre ses doigts une bouteille de verre blanc dont il interrogeait la transparence à peu près comme une ménagère qui fait son marché elle-même mire à la lumière les œufs qu'elle achète. Balsamo le regarda d'abord en silence, puis au bout d'un instant, « Eh bien, dit-il, il y a donc du nouveau ?» Oui, oui, arrive, Acarat, tu me vois enchanté, ravi, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Quoi? Et ce que je cherchais, pardieu. L'or? Oh bien oui, l'or, allons donc. Le diamant? Bon, le voilà qui extravague, l'or, le diamant, belle trouvaille, ma foi, et il y aurait de quoi se réjouir sur mon âme si j'avais trouvé cela. « Alors, demanda Balsamo, ce que vous avez trouvé, c'est donc votre élixir ?»« Oui, mon ami, c'est mon élixir, c'est-à-dire la vie, que dis-je, la vie, l'éternité de la vie !»« Oh !» fit Balsamo attristé, car il regardait cette recherche comme une œuvre folle. « C'est encore de ce rêve que vous vous occupez !» Mais Altotas, sans écouter, mirait amoureusement sa fiole. Enfin, dit-il, la combinaison est trouvée. Élixir d'Aristée, 20 grammes, baume de mercure, 15 grammes, précipité d'or, 15 grammes, essence de cèdre du Liban, 25 grammes. Mais il me semble qu'à l'élixir d'Aristée près, c'est votre dernière combinaison, maître.
Oui, mais il y manquait l'ingrédient principal, celui qui relie tous les autres, celui sans lequel les autres ne sont rien.
Et vous l'avez trouvé, celui-là?
Je l'ai trouvé.
Vous pouvez vous le procurer?
Pardieu!
Et quel est-il?
Il faut ajouter aux matières déjà combinées dans cette fiole les 3 dernières gouttes du sang artériel d'un enfant.
Eh bien, mais cet enfant, dit Balsamo épouvanté, où l'aurez-vous donc?
Tu me le procureras.
Moi?
Oui, toi.
Vous êtes fou, maître.
Eh bien quoi? Demanda l'impassible vieillard, en promenant avec délice sa langue sur l'extérieur du flacon, où, par le bouchon mal clos, suintait une goutte d'eau.
Eh bien quoi?
Et vous voulez avoir un enfant pour prendre les 3 dernières gouttes de son sang artériel?
Oui.
Mais il faut tuer l'enfant pour cela.
Sans doute, il faut le tuer.
Plus il sera beau, mieux cela vaudra.
Impossible, dit Balsamo, en haussant les épaules, on ne prend pas ici les enfants pour les tuer.
Oh, s'écria le vieillard avec une atroce naïveté, qu'est-ce qu'on s'en fait donc?
On les élève, pardieu.
Ah ça, le monde est donc bien changé. Il y a 3 ans, on venait nous en offrir tant que nous en voulions des enfants, pour 4 charges de poudre ou 1/2 bouteille d'eau de vie.
Était-ce au Congo, maître?
Eh bien oui, c'était au Congo.
Il m'est égal que l'enfant soit noir à moi.
Ce qu'on nous offrait, je me le rappelle, était très gentil, très frisé, très folâtre.
À merveille, dit Balsamo, mais malheureusement, cher maître, nous ne sommes pas au Congo.
Ah, nous ne sommes pas au Congo, dit Altota.
Eh bien, où sommes-nous donc?
À Paris.
À Paris?
Eh bien, en nous embarquant à Marseille, nous pouvons y être en 6 semaines au Congo.
Cela se pourrait sans doute, mais il faut que je reste en France.
Il faut que tu restes en France, et pourquoi cela?
Mais parce que j'y ai affaire.
Tu as affaire en France?
Oui, sérieusement.
Le vieillard partit d'un long et lugubre éclat de rire.
« Affaire, dit-il, affaire en France, ah oui,
c'est vrai, j'avais oublié, moi, tu as des clubs à organiser. »«
Oui, maître. »«
Des conspirations à ourdir. »«
Oui, maître. »«
Tes affaires, enfin, comme tu appelles cela. » Et le vieillard se reprit à rire de son rire faux et moqueur.
Balsamo garda le silence tout en amassant des forces contre l'orage qui se préparait et qu'il sentait venir.
« Et où en sont les affaires, voyons ?» dit le vieillard en se retournant péniblement sur son fauteuil et en attachant ses grands yeux gris sur son élève.
Balsamo sentit pénétrer en lui ce regard comme un rayon lumineux.
« Où j'en suis ? » demanda-t-il.
« Oui !»
« J'ai lancé la première pierre. L'eau est troublée. »«
Quel limon as-tu remué ?
Parle, voyons. »«
Le bon, le limon philosophique. »«
Ah oui, tu vas mettre en jeu tes utopies, tes rêves creux, tes brouillards, des drôles qui discutent sur l'existence ou la non-existence de Dieu, au lieu d'essayer, comme moi, de se faire Dieu eux-mêmes. »
Quels sont-ils, ces fameux philosophes auxquels tu t'es relié, voyons?
J'ai déjà le plus grand poète et le plus grand athée de l'époque. Un de ces jours, il doit rentrer en France, d'où il est à peu près exilé, pour se faire recevoir maçon à la loge que j'organise rue du Pot-de-Fer dans l'ancienne maison des Jésuites.
Et tu l'appelles?
Voltaire.
Je ne le connais pas. Après, qui as-tu encore?
On doit m'aboucher prochainement avec le plus grand remueur d'idées du siècle, avec un homme qui a fait le contrat social.
Et tu l'appelles?
Rousseau.
Je ne le connais pas.
Je le crois bien. Vous ne connaissez, vous, qu'Alphonse X, Raymond Lulle, Pierre de Tolède et le grand Albert. Est-ce que ce sont les seuls hommes qui aient réellement vécu, puisque ce sont les seuls qui ont agité toute leur vie cette grande question d'être ou de ne pas être? Il y a deux façons de vivre, maître. Je n'en connais qu'une, moi, c'est d'exister. Mais revenons à ces deux philosophes. Tu les appelles, dis-tu, Voltaire, Rousseau. Bon, je me rappellerai ces noms-là, et tu prétends, grâce à ces deux hommes, m'emparer du présent et saper l'avenir. Oh, ils sont donc bien bêtes dans ce pays-ci, qu'ils se laissent mener avec des idées. Au contraire, c'est parce qu'ils ont trop d'esprit que les idées ont plus d'influence sur eux que les faits. Et puis j'ai un auxiliaire plus puissant que tous les philosophes de la terre. Lequel? L'ennui. Il y a quelque 1600 ans que la monarchie dure en France, et les Français sont las de la monarchie. De sorte qu'ils vont renverser la monarchie? Oui. Tu crois cela? Sans doute. Et tu pousses, tu pousses. De toutes mes forces. Imbécile. Comment? Que t'en reviendra-t-il à toi du renversement de cette monarchie? À moi, rien, mais à tous, le bonheur. Voyons, aujourd'hui je suis content, et je veux bien perdre mon temps à te suivre. Allez, explique-moi d'abord comment tu arriveras au bonheur, et ensuite, ce que c'est que le bonheur. Comment j'arriverai? Oui, au bonheur de tous et au renversement de la monarchie, ce qui est pour toi l'équivalent du bonheur général. J'écoute. Eh bien, un ministère existe en ce moment qui est le dernier rempart qui défend la monarchie. C'est un ministère intelligent, industrieux et brave qui pourrait soutenir 20 ans encore peut-être cette monarchie usée et chancelante. Ils m'aideront à le renverser. Cela, tes philosophes? Non pas, les philosophes le soutiennent au contraire. Comment? Tes philosophes soutiennent un ministère qui soutient la monarchie, eux qui sont ennemis de la monarchie? Oh, les grands imbéciles que les philosophes! C'est que le ministre est un philosophe lui-même. Ah, je comprends, et qu'il gouverne dans la personne de ce ministre. Je me trompe alors, ce ne sont pas des imbéciles, ce sont des égoïstes. Je ne veux pas discuter sur ce qu'ils sont, dit Balsamo, que l'impatience commençait à gagner. Je n'en sais rien, mais ce que je sais, c'est que ce ministère renversé, tous crieront haro sur le ministère suivant. Ce ministère aura contre lui d'abord les philosophes, puis le Parlement. Les philosophes crieront, le Parlement criera, le ministère persécutera les philosophes et cassera le Parlement. Alors, dans l'intelligence et dans la matière, s'organisera une ligue sourde, une opposition entêtée, tenace, incessante, qui attaquera tout, à toute heure, creusera, minera, ébranlera. À la place des parlements, on nommera des juges. Ces juges, nommés par la royauté, feront tout pour la royauté. On les accusera, et à raison, de vénalité, de concussion, d'injustice. Le peuple se soulèvera, et enfin, la royauté aura contre elle la philosophie, qui est l'intelligence, les parlements, qui sont la bourgeoisie, et le peuple, qui est le peuple, c'est-à-dire ce levier que cherchait Archimède et avec lequel on soulève le monde. Eh bien, quand tu auras soulevé le monde, il faudra bien que tu le laisses tomber. Oui, mais en retombant, la royauté se brisera. Et quand elle sera brisée, voyons, je veux bien suivre tes images fausses, parler ta langue emphatique. Quand elle sera brisée, la royauté vermoulue, que sortira-t-il de ses ruines? La liberté. Les Français seront donc libres. Cela ne peut manquer d'arriver un jour. Libres, tous. Tous. Il y aura alors en France 30 millions d'hommes libres. Oui. Et parmi ces 30 millions d'hommes libres, tu crois qu'il ne se rencontrera pas un homme un peu mieux fourni de cervelle que les autres? lequel confisquera un beau matin la liberté de ces 29 999 999 concitoyens pour avoir un peu plus de liberté à lui tout seul. Te rappelles-tu ce chien que nous avions à Médine et qui mangeait à lui tout seul la part de tous les autres ?
Oui, mais un beau jour, les autres se sont unis contre lui et l'ont étranglé.
Parce que c'était des chiens, les hommes n'eussent rien dit.
Vous mettez donc l'intelligence de l'homme au-dessous de celle du chien, maître ?
Dame, les exemples sont là.
Et quels exemples ?
Il me semble qu'il y a eu chez les anciens un certain César Auguste, chez les modernes un certain Olivier Cromwell, qui mordirent ardemment le gâteau romain et le gâteau anglais, sans que ceux auxquels ils l'arrachaient aient dit ou fait grand-chose contre eux.
Eh bien, en supposant que cet homme surgisse, cet homme sera mortel, cet homme mourra, et avant de mourir, il aura fait du bien à ceux même qui l'aura opprimé, car il aura changé la nature de l'aristocratie. Obligé de s'appuyer sur quelque chose, il aura choisi la chose la plus forte, c'est-à-dire le peuple. À l'égalité qui abaisse, il aura substitué l'égalité qui élève. L'égalité n'a point de barrière fixe, c'est un niveau qui subit la hauteur de celui qui l'a fait. Or, en élevant le peuple, il aura consacré un principe reconnu jusqu'à lui. La révolution aura fait les Français libres, le protectorat d'un autre César Auguste ou d'un autre Olivier Cromwell les aura fait égaux.
Altotas se fit un brusque mouvement sur son fauteuil. « Oh, que cet homme est stupide !» s'écria-t-il. « Occupez donc 20 ans de votre vie à élever un enfant, à essayer de lui apprendre ce que vous savez, pour que cet enfant à 30 ans vienne vous dire « Les hommes seront égaux ».»«
Sans doute, les hommes seront égaux, égaux devant la loi. » »«
Et devant la mort, imbécile, devant la mort, cette loi des lois, et quand l'autre mourra 100 ans. »
Ah, égaux, les hommes égaux, tant que les hommes n'auront pas vaincu la mort.
Oh, la brute, la double brute.
Et Altotas se renversa pour rire plus librement, tandis que Balsamo, sérieux et sombre, s'asseyait la tête basse. Altotas le regarda en pitié.
Je suis donc l'égal, dit-il, du manœuvre qui mord dans son pain grossier, du bambin qui tête sa nourrice, du vieillard hébété qui boit son petit lait et pleure ses yeux éteints.
Malheureux sophiste que tu es, réfléchis donc à une chose, c'est que les hommes ne seront égaux que lorsqu'ils seront immortels. Car lorsqu'ils seront immortels, ils seront dieux, et il n'y a que les dieux qui soient égaux.
« Immortel, murmura Balsamo, immortel, chimère. »«
Chimère !» s'écria Altotas. « Chimère, oui, chimère comme la vapeur, chimère comme le fluide, chimère comme tout ce qu'on cherche et qu'on n'a pas découvert et que l'on découvrira. Mais remue donc avec moi la poussière des mondes, mes annues les unes après les autres, ces couches superposées qui chacune représentent une civilisation. » Et dans ces couches humaines, dans ce détritus de royaume, dans ces filons de siècles que coupe comme des tranches de fer l'investigation moderne, que lis-tu ? C'est qu'en tout temps, les hommes ont cherché ce que je cherche sous les différents titres du mieux, du bien, de la perfection. Et quand cherchaient-ils cela ? Au temps d'Homère, où les hommes vivaient 200 ans, au temps des patriarches, quand ils vivaient 8 siècles, ils ne l'ont pas trouvé, ce mieux, ce bien et cette perfection, car s'ils l'eussent trouvé, ce monde décrépit, ce monde serait frais, vierge et rose comme l'aube matinale. Au lieu de cela, la souffrance, le cadavre, le fumier. Est-ce doux la souffrance? Est-ce beau le cadavre? Est-ce désirable le fumier?
Eh bien, dit Balsamo, répondant au vieillard qu'une petite toux sèche venait d'interrompre, eh bien, vous dites que personne n'a trouvé encore cet élixir de vie, je vous dis, moi, que personne ne le trouvera, confessez Dieu. Niais. Personne n'a trouvé tel secret, donc personne ne le trouvera. À ce compte, il n'y aurait jamais eu de découverte. Or, crois-tu que les découvertes soient des choses nouvelles qu'on invente? Non, ce sont des choses oubliées qu'on retrouve. Et pourquoi les choses, une fois trouvées, s'oublient-elles? Parce que la vie est trop courte pour que l'inventeur puisse tirer de son invention toutes les déductions qu'elle enferme. 20 fois, cet élixir de vie, on a failli le trouver. Crois-tu que le Styx soit une imagination d'Homère? Crois-tu que cet Achille, presque immortel, puisqu'il n'est vulnérable qu'au talon, soit une fable? Non, Achille était l'élève de Chiron comme tu es le mien. Chiron veut dire supérieur ou pire. Chiron était un savant qu'on représente sous la forme d'un centaure parce que sa science avait doué l'homme de la force et de la légèreté du cheval. Eh bien, il avait à peu près trouvé l'élixir d'immortalité, lui aussi. Il lui manquait peut-être, à lui aussi, comme à moi, ces 3 gouttes de sang que tu me refuses. Ces 3 gouttes de sang absentes ont rendu Achille vulnérable au talon. La mort a trouvé un passage, elle est entrée. Oui, je le répète, Chiron, l'homme universel, l'homme supérieur, l'homme pire, n'est qu'un autre altotas empêché par un autre acarate de compléter l'œuvre qui eût sauvé l'humanité tout entière en l'arrachant à l'effet de la malédiction divine. Eh bien, qu'as-tu à dire à cela ? Je dis, répondit Balsamo, visiblement ébranlé, je dis que j'ai mon œuvre et que vous avez la vôtre. Accomplissez-la, chacun de notre côté, et à nos risques et périls. Je ne vous seconderai pas par un crime.
Par un crime?
Oui, et quel crime encore? Un de ceux qui lance après vous toute une population aboyante, un crime qui vous fait accrocher à ces potences infâmes dont votre science n'a pas encore plus garanti les hommes supérieurs que les hommes pires. Altotas frappa de ses 2 mains sèches sur la table de marbre. « Voyons, voyons, dit-il, ne sois pas un idiot humanitaire, la pire race d'idiots qui existe au monde. Voyons, viens, et causons un peu de la loi, de ta brutale et absurde loi, écrite par les animaux de ton espèce, que révolte une goutte de sang versée intelligemment, mais qu'affriande des torrents de liqueurs vitales répandus sur les places publiques, au pied des remparts des villes, dans ces plaines qu'on appelle des champs de bataille. De ta loi toujours inepte et égoïste qui sacrifie l'homme de l'avenir à l'homme présent et qui a pris pour devise « Vive aujourd'hui, meurs demain !» Causons de cette loi, veux-tu ? Dites ce que vous avez à dire, je vous écoute, répondit Balsamo, de plus en plus sombre. As-tu un crayon, une plume? Nous allons faire un petit calcul. Je calcule sans plume et sans crayon, dites ce que vous avez à dire. Allez, voyons ton projet. Oui, je me le rappelle, tu renverses un ministère, tu casses les parlements, tu établis des juges iniques, tu amènes une banqueroute, tu fomentes des révoltes, tu allumes une révolution, tu renverses une monarchie, tu laisses s'élever un protectorat et tu précipites le protecteur. La révolution t'aura donné la liberté, le protectorat, l'égalité. Or, les Français étant libres et égaux, ton œuvre est accomplie, n'est-ce pas cela?
Oui.
Regardez-vous la chose comme impossible?
Je ne crois pas à l'impossibilité. Tu vois que je te fais beau jeu, moi.
Eh bien? Attends. D'abord, la France n'est pas comme l'Angleterre où l'on fit tout ce que tu veux faire, plagiaire que tu es. La France n'est pas une terre isolée où l'on puisse renverser les ministères, casser les parlements, établir des juges iniques, amener une banqueroute, fomenter des révoltes, allumer des révolutions, renverser les monarchies, élever des protectorats et culbuter les protecteurs, sans que les autres nations se mêlent un peu de ces mouvements. La France est soudée à l'Europe comme le foie aux entrailles de l'homme. Elle a des racines chez toutes les nations, des fibres chez tous les peuples. Essaye d'arracher le foie à cette grande machine qu'on appelle le continent européen. Et pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans peut-être, tout le corps frémira. mais je cote au plus bas et je prends 20 ans. Est-ce trop ? Réponds, sage philosophe. Non, ce n'est pas trop, dit Balsamo, ce n'est pas même assez. Eh bien, moi, je m'en contente. 20 ans de guerre, de lutte acharnée, mortelle, incessante. Voyons, je mets cela à 200 000 morts par année. Ce n'est pas trop, quand on se bat à la fois en Allemagne, en Italie, en Espagne, que sais-je, moi. 200 000 hommes par année, pendant 20 ans, cela fait 4 millions d'hommes. En accordant à chaque homme 17 livres de sang, c'est à peu près le compte de la nature, cela fait multiplier 17 par 4, voyons, cela fait 68 millions de livres de sang versés pour arriver à ton but. Moi, je n'en demande que 3 gouttes, dis maintenant, quel est le fou, le sauvage, le cannibale de nous deux? Eh bien, tu ne réponds pas. Si fait, maître, je vous réponds que ce ne serait rien, 3 gouttes de sang, si vous étiez sûr de réussir. Et toi, toi qui réponds 68 millions de livres, es-tu sûr? Dis, alors lève-toi et la main sur ton cœur, réponds, maître, moyennant ces 4 millions de cadavres, je garantis le bonheur de l'humanité. « Maître, dit Balsamo en éludant la réponse, maître, au nom du ciel, cherchez autre chose. »« Ah, tu ne réponds pas, tu ne réponds pas !» s'écria Altotas triomphant. « Vous vous abusez, maître, sur l'efficacité du moyen, il est impossible. Ah, je crois que tu me conseilles, je crois que tu me nies, je crois que tu me démens, dit Altotas se roulant avec une froide colère ses yeux gris sous ses sourcils blancs. Non, maître, mais je réfléchis, moi qui vis chacun de mes jours en contact avec les choses de ce monde, en contradiction avec les hommes, en lutte avec les princes, et non pas, comme vous, séquestré dans un coin, indifférent à tout ce qui se passe, à tout ce qui se défend, ou à tout ce qui s'autorise, pure abstraction du savant et du citateur. Moi, enfin, qui sais les difficultés, je les signale, voilà tout. Ces difficultés, tu les vaincrais bien vite si tu voulais. Dites si je croyais. Tu ne crois donc pas? Non, dit Balsamo. Tu me tentes, s'écria Altotas. Non, je doute. Eh bien, voyons, crois-tu à la mort? Je crois à ce qui est, or la mort est. Altotas haussa les épaules. Donc la mort est, dit-il, c'est un point que tu ne contestes pas. C'est une chose incontestable. C'est une chose infinie, invincible, n'est-ce pas? Ajouta le vieux savant avec un sourire qui fit frissonner son adepte. Oui, maître, invincible, infini surtout. Et quand tu vois un cadavre, la sueur te monte au front, le regret te vient au cœur. La sueur ne me monte pas au front parce que je suis familiarisé avec toutes les misères humaines. Le regret ne me vient pas au cœur parce que j'estime la vie peu de choses, mais je me dis en présence du cadavre, mort, mort, tu es puissante comme Dieu, tu règnes souverainement, ô mort, et nul ne prévaut contre toi. Altotas écouta Balsamo en silence et sans donner d'autres signes d'impatience que de tourmenter un scalpel entre ses doigts. Et lorsque son élève eut achevé la phrase douloureuse et solennelle, le vieillard jeta en souriant un regard autour de lui et ses yeux si ardents qu'il semblait que pour eux la nature ne dût point avoir de secret, ses yeux s'arrêtèrent sur un coin de la salle où, couché sur quelques brins de paille, tremblait un pauvre chien noir, le seul qui resta des 3 animaux de même espèce qu'Altotas avait demandé pour ses expériences et que Balsamo lui avait fait apporter. « Prends ce chien, dit Altotas à Balsamo, et apporte-le sur cette table. » Balsamo obéit. Il alla prendre le chien noir et l'apporta sur le marbre. L'animal qui semblait pressentir sa destinée et qui déjà sans doute s'était rencontré sous la main de l'expérimentateur se mit à frissonner, à se débattre et à hurler lorsqu'il sentit le contact du marbre. « Eh bien, dit Altotas, tu crois à la vie, n'est-ce pas, puisque tu crois à la mort ?»« Sans doute. » Voilà un chien qui me paraît très vivant, qu'en dis-tu? Assurément, puisqu'il crie, puisqu'il se débat, puisqu'il a peur. Que c'est laid, les chiens noirs, tâche la prochaine fois de m'en procurer des blancs. J'y tâcherai. Ah, nous disons donc que celui-ci est vivant. Aboie, petit, ajouta le vieillard avec son rire lugubre. Aboie, pour convaincre le seigneur Acarat que tu es vivant. Et il toucha le chien du doigt sur un certain muscle, et le chien aboya, ou plutôt gémit aussitôt. « Bon, avance la cloche, c'est cela, introduis le chien dessous, là. À propos, j'oubliais de te demander à quelle mort tu crois le mieux. »« Je ne sais ce que vous voulez dire, maître, la mort est la mort. » « C'est juste, très juste, ce que tu viens de me dire là, et c'est mon avis à moi aussi. Eh bien, puisque la mort est la mort, fais le vide, Acarat. » Balsamo tourna une roue qui dégagea par un tuyau l'air enfermé sous la cloche avec le chien, et peu à peu l'air s'enfuit avec un sifflement aigu. Le petit chien s'inquiéta d'abord, puis il chercha, fouilla, leva la tête, respira bruyamment et précipitamment, et enfin il tomba, suffoqué, gonflé, inanimé. « Ah, voilà le chien mort d'apoplexie, n'est-ce pas ?» dit Altotas, « une belle mort qui ne fait pas souffrir longtemps. »« Oui, il est bien mort, sans doute. » « Tu ne me parais pas bien convaincu, Acarat. Si fait, au contraire. C'est que tu connais mes ressources, n'est-ce pas? Tu supposes que j'ai trouvé l'insufflation, hein, cet autre problème qui consiste à faire circuler la vie avec l'air dans un corps intact comme on peut le faire dans une outre qui n'est pas percée. Non, je ne suppose rien, je crois que le chien est mort, voilà tout. » N'importe, pour une plus grande sécurité, nous allons le tuer deux fois. Lève la cloche, Acarat. Acarat enleva l'appareil de cristal, le chien ne bougea point, ses paupières étaient closes, son cœur ne battait plus. Prends ce scalpel, et tout en laissant le larynx intact, tranche-lui la colonne vertébrale. C'est uniquement pour vous obéir. Et aussi pour achever le pauvre animal au cas où il ne serait pas tout à fait mort, répondit Altotas avec ce sourire d'opiniâtreté particulier au vieillard. Balsamo donna un seul coup de la lame tranchante, l'incision sépara la colonne vertébrale à 2 pouces du cervelet à peu près et ouvrit une large plaie sanglante. L'animal, ou plutôt le cadavre de l'animal, demeura immobile. « Oui, ma foi, il était bien mort, » dit Altotas, « pas une fibre ne tressaille, pas un muscle ne frémit, pas un atome de chair ne s'insurge contre ce nouvel attentat, n'est-ce pas, il est mort, et bien mort. Je le reconnais autant de fois que vous désirez que je le reconnaisse, » dit Balsamo, impatient. Et voilà un animal inerte, glacé, à jamais immobile. Rien ne prévaut contre la mort, as-tu dit. Nul n'a la puissance de rendre la vie, ni même l'apparence de la vie, à la pauvre bête. Nul, si ce n'est Dieu. Oui, mais Dieu ne sera pas assez inconséquent pour le faire. Quand Dieu tue, comme il est la suprême sagesse, c'est qu'il a une raison ou un bénéfice à tuer. Un assassin, je ne sais plus comment on l'appelle, un assassin disait cela, et c'est fort bien dit, la nature a un intérêt dans la mort. Et voilà un chien aussi mort que possible, et la nature a pris son intérêt sur lui. Altotas attacha son œil perçant sur Balsamo. Celui-ci, fatigué d'avoir soutenu si longtemps le radotage du vieillard, inclina la tête pour toute réponse. « Eh bien, que dirais-tu, continua Altotas, si ce chien ouvrait l'œil et te regardait ?»« Cela m'étonnerait beaucoup, maître, » répondit Balsamo en souriant. « Cela t'étonnerait, ah, c'est bien heureux !» En achevant ses paroles, avec son rire faux et lugubre, le vieillard attira près du chien un appareil composé de pièces de métal séparées par des tampons de drap. Le drap de cet appareil trempait dans un mélange d'eau acidulée. Les deux extrémités, ou les deux pôles, comme on les appelle, sortaient du baquet. « Quel œil veux-tu qu'il ouvre, Acarat ?» demanda le vieillard. « Le droit ?» les deux extrémités rapprochées, mais séparées l'une de l'autre par un morceau de soie, s'arrêtèrent sur un muscle du cou. Aussitôt, l'œil droit du chien s'ouvrit et regarda fixement Balsamo qui recula effrayé. « Maintenant, passons à la gueule, veux-tu ?» Balsamo ne répondit rien. Il était sous l'empire d'un profond étonnement. Altotas toucha un autre muscle, et à la place de l'œil qui s'était refermé, ce fut la gueule qui s'ouvrit, laissant voir les dents blanches et aiguës, à la racine desquelles la gencive rouge frémissait comme dans la vie. Balsamo eut peur et ne put cacher son émotion. « Oh, voilà qui est étrange » dit-il. « Vois comme la mort est peu de choses, » dit Altotas, triomphant de la stupéfaction de son élève, « puisqu'un pauvre vieillard comme moi, qui va lui appartenir bientôt, l'a fait dévier de son inexorable chemin. » Et tout à coup, avec un rire strident et nerveux, « prends garde, Akarat, » dit-il, « voilà un chien mort qui tout à l'heure voulait te mordre et qui maintenant va courir après toi, et prends garde !» Et en effet, le chien, avec son cou tranché, sa gueule béante et son œil tressaillant, se leva soudain sur ses quatre pattes et, la tête hideusement pendante, vacilla sur ses jambes. Balsamo sentit ses cheveux se hérisser, la sueur lui tomba du front et il alla à reculons se coller contre la porte d'entrée, incertain s'il devait fuir ou demeurer. « Allons, allons, je ne veux pas te faire mourir de peur en essayant de t'instruire, » dit Altotas, repoussant le cadavre et la machine. « Assez d'expérience comme cela. » Aussitôt, le cadavre, cessant d'être en rapport avec la pile, retomba, morne et immobile, comme auparavant. « Aurais cru-tu cela de la mort, Akarat, et la croyais-tu d'aussi bonne composition ?» dit. « Étrange, en effet, étrange, » dit Balsamo en se rapprochant. « Et tu vois qu'on peut arriver à ce que je disais, mon enfant, et que le premier pas est fait. Qu'est-ce que prolonger la vie quand on est déjà parvenu à annuler la mort ?»« Mais on ne le sait pas encore, » objecta Balsamo, « car cette vie que vous lui avez rendue est une vie factice. » « Ayons du temps et nous retrouverons la vie réelle. N'as-tu pas lu dans les poètes romains que Cassidée rendait la vie aux cadavres ?»« Dans les poètes, oui. »« Les Romains appelaient les poètes vates, mon ami. N'oublie pas cela. »« Voyons, dites-moi cependant. Une objection encore ?»« Oui. » « Si votre élixir était composé et que vous en fissiez prendre à ce chien, » Il vivrait donc éternellement ? Sans doute. Et s'il tombait dans les mains d'un expérimentateur comme vous qui l'égorgea ? Ah bon, bon ! S'écria le vieillard avec joie et en frappant ses deux mains l'une contre l'autre. Voilà où je t'attendais. Ah, si vous m'attendiez là, répondez-moi. Je ne demande pas mieux. L'élixir empêchera-t-il une cheminée de tomber sur une tête, une balle de percer un homme d'outre en outre, un cheval d'ouvrir d'un coup de pied le ventre de son cavalier ? Altotas regardait Balsamo du même œil qu'un spadassin doit regarder son adversaire dans un coup qui va lui permettre de le toucher. « Non, 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 dit-il, et tu es vraiment logicien, mon cher Akarat. Non, la cheminée, non, la balle, non, le coup de pied de cheval ne pourront pas être évités tant qu'il y aura des maisons, des fusils et des chevaux. Il est vrai que vous ressuscitez les morts. Momentanément, oui, indéfiniment, non, il faudrait d'abord pour cela que je trouvasse l'endroit du corps où l'âme est logée, et cela pourrait être un peu long, mais j'empêcherai cette âme de sortir du corps par la blessure qui aura été faite. Comment cela ? En la refermant. Même si cette blessure tranche une artère ? Sans doute. Je voudrais voir cela. Eh bien, regarde, dit le vieillard. Et avant que Balsamo eût pu l'arrêter, il se piqua la veine du bras gauche avec une lancette. Il restait si peu de sang dans le corps du vieillard, et ce sang roulait si lentement qu'il fut quelque temps à venir aux lèvres de la plaie. Mais enfin, il y vint, et ce passage ouvert, il sortit bientôt abondamment. « Grand Dieu !» s'écria Balsamo. « Eh bien, quoi ?» dit Altotas. « Mais vous êtes blessé, et grièvement !» puisque tu es comme saint Thomas, et que tu ne crois qu'en voyant et qu'en touchant, il faut bien te faire voir, il faut bien te faire toucher. » Il prit alors une petite fiole qu'il avait placée à la portée de sa main, et en versant quelques gouttes sur la plaie, « Regarde, » dit-il. Alors devant cette eau presque magique, le sang s'écarta, la chair se resserra, fermant la veine, et la blessure devint une piqûre trop étroite pour que cette chair coulante qu'on appelle le sang pût s'en échapper. Cette fois, Balsamo regardait le vieillard avec stupéfaction. « Voilà encore ce que j'ai trouvé. Qu'en dis-tu, Acarat ? » ?»« Je dis, maître, que vous êtes le plus savant des hommes. » Et que, si je n'ai pas vaincu tout à fait la mort, n'est-ce pas, je lui ai du moins porté un coup dont il lui sera difficile de se relever. Vois-tu, mon fils, le corps humain a des os fragiles et qui peuvent se briser. Je rendrai ses os aussi durs que l'acier. Le corps humain a du sang qui, lorsqu'il s'échappe, emmène avec lui la vie. J'empêcherai que le sang ne sorte du corps. La chair est molle et facile à entamer. Je la rendrai invulnérable comme celle des paladins du Moyen-Âge sur laquelle s'émoussait le fil des épées et le tranchant des haches. Il ne faut pour cela qu'un Altotas qui vive 300 ans. Eh bien, donne-moi ce que je te demande et j'en vivrai 1000. « Oh, mon cher Acarat, cela dépend de toi. Rends-moi ma jeunesse, rends-moi la vigueur de mon corps, rends-moi la fraîcheur de mes idées, et tu verras si je crains l'épée, la balle, le mur qui s'écroule ou la bête brute qui mord et qui rue. À ma 4e jeunesse, Acarat, c'est-à-dire avant que j'aie vécu l'âge de 4 hommes, j'aurais renouvelé la face de la terre, et je te le dis, j'aurais fait pour moi et pour l'humanité régénérer un monde à mon usage, un monde sans cheminée, sans épée, sans balles de mousquet, sans chevaux qui ruent. Car alors les hommes comprendront qu'il faut mieux vivre, s'entraider, s'aimer, que se déchirer et se détruire. » C'est vrai, ou du moins, c'est possible, maître. Eh bien, apporte-moi l'enfant, alors. Laissez-moi réfléchir encore, et réfléchissez vous-même. » Altotas lança à son adepte un regard de souverain mépris. « Va, dit-il, va, je te convaincrai plus tard. » Et d'ailleurs, le sang de l'homme n'est pas un ingrédient si précieux qu'il ne se puisse remplacer peut-être par une autre matière. Va, je chercherai, je trouverai, je n'ai pas besoin de toi, va. » Balsamo frappa du pied la trappe et descendit dans l'appartement inférieur, muet, immobile et tout courbé sous le génie de cet homme qui forçait de croire aux choses impossibles en faisant lui-même des choses impossible.